Bonjour à tous, alors très heureux d'être parmi vous ce matin. Et aujourd'hui, même si nous ne sommes pas loin d'un anniversaire, celui de Valentin, nous n'allons pas parler de lui aujourd'hui. J'ai choisi de parcourir avec vous l'histoire de Jacob, d'un personnage qui est très connu dans la Bible. Et au travers de sa vie tumultueuse, vous verrez combien et comment Dieu a été fidèle avec lui. Il est bien évident qu'il était impossible d'entrer dans les détails du parcours terrestre de cet homme. Mais nous allons tenter de découvrir les traits de caractère de celui que Dieu a appelé à être le père de la nation, un patriarche pour Israël. Je lirai chaque fois un arrangement du texte biblique. Il est en effet impossible d'en faire une lecture complète. La vie de Jacob commence au chapitre 25 et se termine, entre guillemets, au chapitre 36, où là vraiment on parle de lui. On en entend parler encore bien après dans la Genèse. Mais en tout cas, c'est le gros paquet, c'est là, donc ça fait 12 chapitres, sinon vous êtes encore là ce soir. Hein. J'espère cependant que vous allez savoir vous donner envie d'aller un petit peu fouiller ce texte qui est riche en enseignements. Jacqueline me secondera en lisant ce que j'ai appelé des constats ou des commentaires sur ces petits passages. Bien sûr, je ne vais pas vous apporter une étude, attention, exhaustive, de Jacob et de son entourage. En préparant cette prédication, mon intention est de démontrer la fidélité que Dieu a eue pour Jacob et sous la promesse qu'il lui a faite de devenir une grande nation parmi tous les peuples. Et cette promesse, elle sera tenue par Dieu malgré les altermoiements, les changements de direction de Jacob tout au long de sa vie. Alors comme je vous l'ai dit, cette histoire, elle démarre dans la Genèse, au chapitre 25. Isaac et Rebecca sont mariés depuis de longues années. Ils n'ont toujours pas d'enfants. Isaac supplie le Seigneur pour que son épouse tombe enceinte. Dieu l'exauce doublement puisque ce sont des jumeaux qui sont annoncés. On parle souvent de symbiose entre jumeaux. Eh bien là, on peut s'apercevoir que déjà dans le texte, il nous indique qu'ils boxaient entre eux dans le ventre de la maman. Donc, ça ne commence pas forcément très très bien. Rebecca va consulter le Seigneur qui lui confirme que deux nations vont sortir de ses entrailles, deux peuples distincts, le plus petit dominant sur le plus grand. Le premier qui arrive est roux et couvert de poils, on l'appelle Ésaü. Le second suit en tenant le talon de son frère, on l'appelle Jacob.
La naissance de ces deux bébés est l'exaucement d'une prière. Dès le début, Dieu est à l'œuvre dans la vie de Jacob. Isaac et Rebecca ont dû faire preuve de patience et s'accrocher à la promesse de Dieu qu'ils auraient une postérité nombreuse dont descendrait une grande nation et beaucoup d'autres peuples. Ésaü signifie « velu » et également « roux ». Il est l'ancêtre des Édomites. Jacob signifie en hébreu « celui qui talonnera », mais aussi « Dieu a soutenu ou protégé ». L'expression d'avoir quelqu'un sur ses talons vient certainement de là.
Ésaü grandit et devient un grand chasseur. Jacob, quant à lui, est un jeune homme plutôt tranquille qui reste volontiers sous la tente. Isaac préfère Ésaü car il apprécie le gibier, alors que Rebecca apprécie Jacob car il aime passer du temps près de sa maman.
Le risque de favoritisme est difficile à éviter. Néanmoins, la partialité d'Isaac et de Rebecca vis-à-vis de leurs deux seuls enfants peut avoir des conséquences importantes. L'équité doit transparaître dans nos relations familiales entre parents et enfants.
Alors qu'Ésaü revient affamé d'une partie de chasse, Jacob profite de l'épuisement de son frère pour lui proposer du pain et un potage de lentilles. Contre son droit d'aînesse. Il fait jurer son frère pour qu'il renonce à son droit contre ses quelques aliments.
L'aîné est le bénéficiaire principal de l'héritage de son père. Renoncer à une bénédiction contre quelque chose de terrestre peut avoir des conséquences. Jacob obtient ce droit par ruse. Il laisse son frère alors qu'il aurait simplement pu lui offrir ce plat et restaurer une relation qui ne semble pas si évidente entre eux. Obtenir par ruse n'est jamais une bénédiction. Bien mal acquis ne profite jamais, nous dit ce dicton. Renoncer à une bénédiction porte à conséquence et jurer, ben c'est pas beau.
Quand on dit jurer, il n'a pas dit des gros mots, mais il a juré sur le nom de Dieu, hein, en proposant ce plat de lentilles. Isaac et sa famille s'en vont ensuite dans le pays que Dieu leur indique, suite à une famine. Là, Isaac prospère et devient riche au contact des Philistins. Il y avait évidemment d'autres peuples. Hein. Dans ce pays, son peuple devient nombreux, ce qui attise la jalousie. Les Hébreux s'éloignent du côté de Guérar et continuent de prospérer. Les Philistins s'accordent avec Isaac d'être en paix et reconnaissent que Dieu est avec lui. Bien sûr qu'ils n'ont pas la même connaissance de Dieu, hein, mais il y a un Dieu avec Isaac et ça, ils en sont conscients. Isaac est béni de suite, car un nouveau puits et de l'eau en abondance sont trouvés. Il y a beaucoup de papier, ça colle ensemble. Oups. C'est dans cette période qu'Ésaü se marie et a deux épouses en même temps. Ceci déplaît à Isaac et Rebecca. Devenant vieux, Isaac désire ensuite transmettre sa bénédiction à son aîné et lui demande d'aller à la chasse pour lui et de lui préparer un bon plat. On a vu qu'il aimait la viande. Hein. Rebecca, qui veut que Jacob reçoive cette bénédiction, se prépare à user d'un stratagème pour confondre son mari. Jacob accepte et joue le jeu. Il trompe son père et reçoit ainsi la bénédiction promise à Ésaü.
C'est le père qui transmet la bénédiction et c'est au travers du père que nous sommes bénis. Dans ce cas, Jacob est responsable d'avoir écouté sa mère en acceptant d'entrer dans la peau d'Ésaü. Il pouvait refuser aussi. Dieu laisse pourtant faire et pourquoi ? Ésaü, en épousant deux femmes d'origine cananéenne et sans le consentement de son père, s'éloigne de la bénédiction de celui-ci et ouvre la porte à la malédiction qui arrive par le biais de Rebecca et de sa tromperie. Pourtant, Isaac souhaite tout de même bénir Ésaü.
On voit qu'Isaac se conforme à la règle de bénir l'aîné, mais on voit aussi qu'il y a toutes sortes de stratégies pour essayer de contourner cette règle. En présentant son plat à Isaac, Jacob se fait passer pour son frère Ésaü. À la question de son père de savoir comment Ésaü a fait pour trouver le gibier si vite, Jacob dit que c'est Dieu qui l'a mis sur son chemin. Il affirme même par trois fois être Ésaü et use d'un déguisement pour se faire passer pour lui.
Un mensonge en amène souvent un autre et lorsqu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il devient difficile de faire marche arrière. Prendre Dieu à témoin pour se justifier alors qu'un événement arrive suite à nos choix est une tromperie qui porte atteinte au témoignage que nous rendons à Dieu.
À peine Jacob parti, Ésaü revient de la chasse et se rend vers son père. Isaac est dans tous ses états en réalisant qu'il a été floué. Il est rempli d'amertume. Ésaü se sent trahi une nouvelle fois et en réalisant qu'il a tout perdu, entre dans une grande colère contre son frère. Voilà les résultats.
La confiance de la famille est rompue et le poison de l'amertume remplit le cœur d'Isaac. La trahison que ressent Ésaü envenime leur relation et les dommages subis par la perte de l'héritage pour Ésaü sont irréversibles. La haine contre Jacob va grandissante.
Remarquez qu'on a déjà parcouru au moins 4 chapitres. Là, hein. Ça n'a pas l'air hein, comme ça, c'est du rapide. Rebecca, ayant appris qu'Ésaü planifie de tuer Jacob, s'en va l'avertir et lui recommande de s'enfuir vers son oncle Laban. Elle informe ensuite son mari. Sa plus grande crainte est de perdre ses deux fils et que Jacob épouse une femme étrangère. Comme Ésaü l'a fait à deux reprises, Isaac fait appeler Jacob, lui dit adieu. Il lui demande de ne pas prendre une femme cananéenne, mais de choisir une fille de Laban, le frère de Rebecca.
Les conséquences de cette usurpation se révèlent. La tentation d'un meurtre, les machinations, l'animosité vis-à-vis des deux belles filles, la crainte de tout perdre, le déchirement.
Avant de partir, Jacob reçoit la promesse qu'il aura une famille nombreuse. Il deviendra le père d'une nation, d'un ensemble de peuples. Isaac demande que Jacob soit béni de la même bénédiction qu'Abraham a reçue de la part de Dieu. Ésaü apprend que Jacob s'en est allé vers Laban Il comprend que ses deux épouses ne sont guère appréciées dans la famille. Il choisit d'en épouser une troisième. Ben voilà, deux, trois. Issue de la descendance d'Abraham.
Jacob reçoit la promesse faite à Abraham de la bouche d'Isaac qu'il la lui transmet. La transmission de la promesse est primordiale pour maintenir la bénédiction vivante. Ésaü pense qu'en épousant une troisième femme issue du peuple, il sera mieux vu de ses parents. Un choix cohérent ne couvre pas forcément les mauvais choix faits précédemment.
Jacob s'en va de Beersheba à Haran en Haute-Mésopotamie pour rejoindre Laban. Il se couche le soir venu et utilise une pierre comme oreiller. Il fait un rêve et voit des anges qui montent et descendent d'une échelle reliant la terre au ciel. Il entend la voix de Dieu qui lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » En se réveillant, il prend conscience que Dieu veille sur lui. Il est persuadé que Dieu habite à cet endroit. Il utilise la pierre qui lui a servi d'oreiller pour en faire une pierre sacrée. Il nomme ce lieu du nom de Bethel, la maison de Dieu.
C'est la première fois que Jacob rencontre Dieu. Auparavant, il bénéficiait des grâces et des bénédictions de Dieu sans vraiment s'en rendre compte. Cette fois, il est convaincu qu'il vient de rencontrer le Dieu vivant. Sa compréhension est toutefois limitée, car il pense que Dieu habite à cet endroit uniquement.
Suite à cela, Jacob prononce un vœu. « Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. »
La foi en Dieu au conditionnel, si et si et si, alors seulement le Seigneur sera mon Dieu. L'amour conditionnel de Jacob face à l'amour inconditionnel de Dieu.
Jacob poursuit sa route et s'arrête près d'un puits où des bergers ont conduit leurs troupeaux. Au loin, Rachel arrive, guidant le troupeau de son père Laban vers le puits. Jacob aide les bergers à rouler la pierre qui couvre le puits et le bétail s'abreuve. Il se présente à Rachel et fait sa connaissance. Rachel s'en va avertir son père qui accourt. Ils s'étreignent l'un et l'autre et sortent dans la joie. Il est accueilli pendant un mois dans la famille. Laban souhaite rétribuer Jacob et Jacob accepte de travailler gratuitement pendant 7 ans s'il peut obtenir la main de Rachel, la cadette. Ces 7 années passent vite tant il est amoureux. Le temps venu, il demande à Laban de pouvoir épouser sa fiancée. Mais Laban offre la main de Léa pour la nuit de noces, car c'est leur coutume de marier d'abord l'aîné. Jacob se sent floué, mais est prêt à travailler 7 ans encore pour obtenir Rachel. La semaine de noces terminée, il marie Rachel. Zilpa et Bila, les deux servantes, accompagnent elles aussi leur maîtresse.
Jacob est bien accueilli par sa famille. Il est également courtois avec les bergers et les aide à rouler la pierre. Cette fois, c'est Jacob qui est trompé. L'arroseur arrosé. Remarquez la similitude de la tromperie. Jacob s'est déguisé en Ésaü sur ordre de sa mère, alors que Léa obéit à son père en prenant la place de Rachel dans le lit conjugal. La fiancée était dissimulée par ses habits. Le ménage à 3 plus 2 avec les servantes commence assez mal. Rachel est privée de ses noces. Léa doit marier un homme qui ne l'aime pas forcément et les servantes sont à la merci des desiderata de Léa et Rachel. La jalousie et la perversion sont une pierre d'achoppement. Il n'est pas bon d'avoir 2 femmes et les mariages arrangés peuvent être une source de malheur pour ceux qui le subissent, mais aussi pour leurs proches.
Afin que Léa soit aimée, le Seigneur la rend féconde. Elle accouche en effet de 4 fils. Elle appelle ses 2 premiers du nom de Ruben et Siméon. C'est Jacob qui donne le nom de Lévi au troisième. Elle met au monde un quatrième garçon qui se nomme Judas. Rachel est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle devient jalouse et supplie Jacob de lui donner des enfants. Il se met en colère et rétorque que c'est la faute à Dieu s'il ne peut pas donner la vie. Jacob couche alors avec Bilha, la servante de Rachel, qui enfante Dan et Nephtali. Léa propose à Jacob de coucher avec sa propre servante, Zilpa, qui lui donne Gad et par la suite Aser. À la suite d'un arrangement, Léa accouche une sixième fois son dernier fils, qui s'appelle Zabulon. Vient ensuite une fille, Dina. Dieu rend Rachel féconde et un fils lui est donné, Joseph.
Un parfait exemple de polygamie. Nous avons une forte rivalité entre deux femmes. L'une plutôt douce et cherchant à être aimée, l'autre jalouse. Rien de nouveau sous le soleil. Les mères porteuses, une méthode nouvelle? Non. Rechercher la première place, pas nouveau non plus. Mais c'est pourtant ce chemin que Dieu a choisi avec Jacob et ses épouses pour démarrer ce qu'il allait devenir, une grande nation.
Petite vie tranquille, hein, normale, relation standard, pas de problème. En tout cas à cette époque, visiblement. Après 14 ans passés à servir Laban, Jacob demande à repartir chez lui. Laban lui demande d'être indulgent, car ses dieux lui ont révélé qu'il a été béni par la présence de Jacob à ses côtés. Jacob fait un marché avec Laban et utilise une combine pour rendre ses brebis fécondes. Son troupeau grandit au fil du temps, alors que celui de Laban dépérit. La tension entre la famille de Laban et celle de Jacob s'amplifie. Finalement, Rachel et Léa réalisent qu'elles ont été déshéritées et abordent pour que Jacob parte avec sa famille, et ses biens vers son père Isaac.
Encore des entourloupes de chaque côté. Pourtant, Jacob est sûr que c'est Dieu qui a enlevé les moutons à Laban. Ou comment interpréter un rêve pour se justifier de ses combines?
Jacob s'enfuit et c'est seulement deux jours plus tard que Laban l'apprend. Il se met à sa poursuite avec sa troupe et rejoint Jacob. Il le réprimande et regrette qu'il n'a pas pu dire au revoir à ses filles. Il lui reproche d'avoir emporté ses idoles. C'est Rachel qui a pris les idoles familiales. Elles sont utilisées comme un talisman. Jacob se braque et rétorque qu'il a travaillé 20 ans au service de Laban et que sans l'aide du Dieu d'Abraham et d'Isaac, il serait certainement reparti sans le sou. Il faut finalement un pacte entre eux pour séparer leur destinée et se quitte, chacun repartant chez lui. Remarquez que Jacob parle du Dieu d'Abraham et d'Isaac, mais pas de son Dieu. C'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac.
Malgré tout le travail que Jacob a effectué pour Laban, celui-ci lui réclame encore ses troupeaux, ses filles et ses biens. Laban est matérialiste, jaloux et idolâtre. Quant à Jacob, les 20 ans de labeur pourraient être les conséquences de son usurpation passée. C'est comme si Dieu a choisi de bénir Jacob par le feu, peut-être pour le purifier de son péché et pour qu'il devienne un homme selon Dieu.
Jacob sait bien qu'en retournant vers son père, il risque de croiser le chemin de son frère Ésaü. Il envoie des messagers pour qu'Ésaü lui fasse un bon accueil. Mais Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Alors visiblement, quand on nous dit ça, on se dit « ça va chauffer ». Jacob prend peur et répartit son monde et son bétail en deux groupes. « Peut-être je perdrai une partie de mes biens, mais je pourrai m'enfuir avec le reste. » Jacob prie ensuite Dieu. « Ô Dieu de mon grand-père Abraham, de mon père Isaac, Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille. J'agirai et tout ira bien pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées avec tant de fidélité, à moi ton serviteur. » Il choisit ensuite d'offrir des cadeaux à son frère en lui envoyant, l'un derrière l'autre, du bétail en nombre. Il précise à chaque groupe de bien dire à Ésaü qu'il s'agit de cadeaux de la part de Jacob et qu'ils vont bientôt se rencontrer.
Jacob, enfin stratège, cède ses biens en deux. Il use de ruse pour apaiser la haine de son frère en envoyant des cadeaux, mais il ne prend lui-même pas de risque.
Pendant la nuit, il se bat contre un adversaire qui lui déboîte finalement la hanche. Jacob insiste pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dorénavant, Jacob s'appellera Israël. Et ce n'est pas le seul moment où on voit que Dieu fait changer les noms. Hein. Sarah, Sarai, Abraham, Abraham. Eh bien, c'est aussi le cas pour Jacob qui s'appelle dorénavant Israël. Un peu plus tard, les deux frères se rencontrent. Jacob s'avance vers Ésaü, précédé par ses épouses et ses enfants. Ils s'inclinent l'un après l'autre devant Ésaü. Ils se tombent dans les bras, pleurent et se réconcilient. Ésaü ne veut d'abord pas des cadeaux de Jacob, mais finit par les accepter. Il enjoint Jacob et les siens de le suivre jusqu'à la maison. Jacob fait qu'il ne peut pas suivre avec son bétail, ses enfants et sa troupe. Ésaü part devant et Jacob le suit. Mais pas vraiment finalement, puisqu'il choisit de partir dans une autre région et achète de la terre pour s'y installer. Alors j'ai regardé sur la carte, c'est comme si on vous dirait d'aller au nord, et puis Jacob lui va à l'ouest. Donc c'est pas juste à côté, c'est carrément, pas droit à l'opposé non plus, mais pas dans la direction qui était prévue au départ.
Après avoir demandé et obtenu la bénédiction, il rencontre son frère, les relations sont restaurées. Malgré tout, il choisit de repartir dans une autre direction et de s'installer au contact des Cananéens. La décision de Jacob est prise même lorsque le chemin est ouvert et que la voie est tracée, même lorsque la bénédiction est donnée.
Il y avait tout entre les mains pour obtenir une riche bénédiction, une réconciliation, une restauration. Mais malgré tout, il fait autre chose. Hein? Et on verra les conséquences. Plus tard, un homme cananéen profite de Dina et couche avec elle. Jacob et ses fils l'apprennent. Malgré le repentir de cet homme et de sa famille, Siméon et Lévi planifient de venger leur sœur. Ils demandent aux hommes de ce peuple de se circoncire avant de pouvoir épouser les filles du clan de Jacob. Siméon et Lévi profitent que les hommes nouvellement circoncis et encore peu bien sont sans force pour les tuer pendant la nuit et les récupèrent Dina. Juste après, les autres frères pillent le clan et emmènent avec eux les femmes et les enfants. Cool, hein? Tranquille. Pas de problème là. Hein?
Nous avons le résultat de la désobéissance de Jacob. Le viol de sa fille, des mensonges, de la trahison et des meurtres. Tout le contraire de ce que Dieu avait comme plan pour lui et sa famille. En restant à Sichem, Dina fait connaissance de païennes. La possibilité que cela tourne mal est bien réelle. Jacob ne fait rien. Il laisse ses fils gérer la chose. Il n'assume pas son rôle de chef de famille. Le père du garçon, accouché avec Dina, fait tout pour se faire pardonner et convaincre Jacob de rester et de marier leurs enfants entre eux. Ceci n'est définitivement pas dans le plan de Dieu.
Vous comprenez bien, quand je dis que c'est cool, c'est pas si cool que ça, hein? Ils étaient un peu sauvages hein, quand même. Hein, ça. Parce que par la faute d'un seul, il y a tout un clan, toute une famille, une grande famille qui se fait évincer. Hein. Donc, ce n'était pas simple à l'époque, visiblement. Jacob est troublé par les actes de ses fils, mais il ne pense qu'à son honneur. Cependant, Dieu lui dit de se mettre en route pour Bethel, l'endroit où il avait rencontré Dieu pour la première fois. Jacob demande à son peuple de laisser là tous les idoles et statuettes des dieux étrangers. Le peuple obéit et quitte la région de Sichem pour Bethel. Arrivé sur place, il construit un autel en l'honneur de l'Éternel pour le remercier de sa fidélité. Dieu apparaît à nouveau à Jacob et lui réitère qu'il sera le père d'une grande nation, comme il l'a promis à ses pères.
Jacob se rappelle enfin la promesse que Dieu lui a faite. Il héritera du pays qu'il a donné à Abraham et Isaac son père. Il comprend alors qu'il ne veut pas suivre deux voies, se sépare des idoles étrangères, change son vêtement et se purifie. Il croit et décide de suivre le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Il avait trop laissé faire en restant dans l'inaction. Cette inaction a amené à toutes sortes de déviances de sa part, de sa famille et finalement de son peuple.
En route pour la terre promise, Rachel met au monde Benjamin. Malheureusement, l'accouchement se passe mal et elle décède en couche. Finalement, Jacob eut 12 fils et une fille. Léa lui donna Ruben, l'aîné, puis Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Plus tard, sa fille unique, Dina. Rachel lui donna Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui donna Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, lui donna Gad et Aser. Tels sont les fils de Jacob qui naquèrent en Mésopotamie. Alors, comme je l'ai dit au tout début, dans la Genèse, on parle encore à plusieurs reprises de Jacob. Mais c'est surtout au travers de la vie de Joseph que sa voix se fait entendre, hein, quand il revient en Égypte, etc. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, en dehors de la promesse reçue par Dieu, Jacob peut-il être considéré comme un homme de Dieu? En tout cas, une grande, grande majorité de ses actes nous ferait plutôt penser le contraire. Mais peut-être pas toujours comme un homme selon Dieu, mais un homme qui a bénéficié des bénédictions et des promesses de Dieu qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Dieu reste souverain malgré les choix de vie de cet homme. Ce qu'il a promis, il l'accomplit, car sa parole est certaine. Elle ne se trompe pas. Même si les circonstances donnent l'impression du contraire, elle s'accomplira certainement. Les promesses que Dieu a faites à travers sa parole sont oui et amen. Une fois que Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Dieu ne peut se résoudre à changer ses plans pour Jacob en fonction de ses altermoiements, de ses changements de direction. Non, il reste le même et ses plans restent les mêmes. Il le fait la même chose pour l'humanité. Jacob a mis beaucoup de temps pour comprendre quel était le plan de Dieu pour sa vie. Et ça a coûté la vie à beaucoup de gens, hein, aussi. Nous mettons aussi beaucoup de temps pour le comprendre. Mais malgré les aléas, les hauts et les bas, nous pouvons croire que sa parole s'accomplira dans nos vies, car Dieu est fidèle. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Le Seigneur a trouvé Israël au désert, au milieu des hurlements des chacals. Il a pris soin de lui, il l'a instruit, il a veillé sur lui comme sous la prunelle de ses yeux. Et je rappelle que nous sommes nous aussi les descendants, les bénéficiaires de la promesse d'Israël. Donc cette phrase qu'on trouve dans Deutéronome 32, eh bien elle nous est aussi attribuée, elle nous est aussi donnée. Hein. Il a pris soin, il a veillé, il l'a instruit, comme sous la prunelle de ses yeux. Et s'il a pris soin du peuple d'Israël, donc de Jacob, puisque Dieu lui a donné ce nom, hein, et que nous sommes rattachés à cette même racine, nous sommes au bénéfice de ces mêmes promesses. Et Dieu nous surprend toujours. Il qualifie l'homme là où ses semblables sont incapables de voir les bonnes choses en devenir. Et moi-même, en voyant un gars comme ça, je ne sais pas si j'aurais vu quelque chose de bon en lui, hein. Nos agissements tendent à nous faire penser que Dieu n'est pas souverain dans nos vies. Notre perception est toute humaine, mais lui reste fidèle à ses promesses et il pardonne. Nous aimons sous condition. Dieu aime sans condition. Nous choisissons des chemins de traverse et nous égarons. Dieu nous accompagne malgré tout. Il a fait tout ça pour Jacob et son peuple. Pourquoi ne le ferait-il pas pour nous? Ça, c'est la question sur laquelle j'aimerais vous laisser cette prédication et j'aimerais encore prier. Alors, profitez aussi de lire ce texte, c'est vraiment intéressant, c'est riche en dénouement, en déroulement. Et puis, ça nous montre aussi que finalement, Jacob était un simple homme, mais que Dieu lui a fait totalement confiance pour devenir le chef d'une nation. Je vais prier. Eh bien, Seigneur, c'est vrai, encore une fois, merci pour ta parole qui est si riche, qui est pleine de bon sens, de sagesse. Merci, Seigneur, parce que malgré les égarements de Jacob, tu as été avec lui, tu as poursuivi cette route avec lui, tu ne l'as pas abandonné, tu ne l'as pas laissé. Oui, Seigneur, merci pour ta fidélité, pour cet amour qui se renouvelle jour après jour, pour le fait d'avoir choisi de maintenir ta promesse vivante, tes bénédictions vivantes et tes grâces aussi qui renouvellent la vie de Jacob. Merci Seigneur aussi parce que nous sommes au bénéfice de ces grâces aujourd'hui. Nous bénéficions encore et toujours de ta fidélité, car tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur parce que ces grâces, elles sont pour chacun d'entre nous. Malgré nos égarements, malgré nos manquements, tu restes fidèle. Et Seigneur, j'aimerais que ce texte puisse vraiment nous inspirer, nous montrer ta puissance, que tu es le roi, que tu es le Seigneur, de nos vies, de nos journées. Même parfois, tu es le roi de nos manquements, parce que toi, Seigneur, tu pardonnes. Merci Jésus de nous accompagner sur nos chemins de vie, parce que nous sommes en chemin, c'est vrai, et avec toi. Merci Seigneur, parce que nous pouvons être sûrs que tu agiras pour notre bien, que tu veux notre bien, Seigneur Jésus, et que tu prends soin de nous comme la prunelle de tes yeux, que tu veux aussi nous instruire, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse être encore et toujours attiré par ta parole, qu'on puisse être attiré par ta vie, Seigneur, par ton souffle, par ton esprit. Merci Jésus de nous bénir chacun maintenant, ce matin. Merci pour tes bienfaits et encore une fois pour ta fidélité. Amen.